L'impôt confiscatoire sur les revenus excessifs, une invention américaine. De façon générale, si l'on examine l'histoire de la progressivité fiscale au cours du siècle dernier, il est frappant de constater à quel point ce sont les pays anglo-saxons et en particulier les États-Unis qui ont inventé l'impôt confiscatoire sur les revenus et patrimoines jugés excessifs. L'examen des graphiques 14.1-14.2 est particulièrement clair. Cela est tellement contraire aux perceptions que l'on a généralement des États-Unis et du Royaume-Uni depuis les années 1970-1980, à l'extérieur comme à l'intérieur de ces pays, qu'il n'est pas inutile de s'arrêter quelque peu sur ce point. Au cours de l'entre-deux-guerres, tous les pays développés se mettent à expérimenter des taux supérieurs très élevés, souvent de façon erratique. Mais ce sont les États-Unis qui expérimentent en premier des taux supérieurs à 70%, à la fois pour les revenus, dès les années 1919-1922, puis pour les successions, en 1937-1939. Quand on taxe une tranche de revenus ou de successions à un taux de l'ordre de 70-80%, il est bien évident que l'objectif principal n'est pas de lever des recettes fiscales, et de fait ces tranches n'en rapporteront jamais beaucoup. Il s'agit, in fine, de mettre fin à ce type de revenus ou de patrimoine, jugé socialement excessif et économiquement stérile par le législateur, ou tout du moins de rendre extrêmement coûteux leur maintien à ce niveau et de décourager très fortement leur perpétuation. Et dans le même temps, il ne s'agit pas d'une interdiction absolue ou d'une expropriation. L'impôt progressif constitue toujours une méthode relativement libérale pour réduire les inégalités, dans le sens où cette institution respecte la libre concurrence et la propriété privée, tout en modifiant les incitations privées, éventuellement de façon radicale, mais toujours d'une manière prévisible et continue, suivant des règles fixées à l'avance et démocratiquement débattues dans le cadre de l'état de droit. L'impôt progressif exprime en quelque sorte un compromis idéal entre justice sociale et liberté individuelle. Ce n'est donc pas par hasard si les pays anglo-saxons, qui dans une certaine mesure se sont montrés les plus attachés aux libertés individuelles au cours de leur histoire, sont aussi ceux qui ont été le plus loin dans la direction de la progressivité fiscale au cours du XXe siècle. Il faut également souligner que les pays d'Europe continentale, et en particulier la France et l'Allemagne, ont exploré d'autres voies dans l'après-guerre, comme la propriété publique des entreprises et la fixation directe du salaire de leurs dirigeants, mesures qui peuvent fort bien se concevoir elles aussi dans le respect du droit et qui d'une certaine façon les dispensaient d'aller aussi loin dans la voie fiscale. À cette explication générale, il faut ajouter des facteurs plus spécifiques. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, pendant la période dite du Gilded Age, de nombreux observateurs aux États-Unis s'inquiètent du fait que le pays devienne de plus en plus inégalitaire et s'éloigne progressivement de son idéal pionnier des origines. Nous avons déjà mentionné dans la troisième partie, chapitre 10, le livre que Wilford King consacre en 1915 à la répartition des richesses aux États-Unis et les inquiétudes qu'il exprime au sujet d'un possible rapprochement avec les sociétés européennes, perçues alors comme hyper inégalitaires. En 1919, le président de l'American Economic Association, Irving Fisher, va plus loin encore. Il choisit de consacrer sa Presidential Address à la question des inégalités américaines. Et il explique, sans détour à ses collègues, que la concentration croissante de la fortune est le principal problème économique de l'Amérique. Fisher est affolé par les estimations réalisées par King. Le fait que 2% de la population possède plus de 50% de la fortune et que les deux tiers de la population ne possèdent presque rien lui apparaît comme une répartition non démocratique de la richesse. An undemocratic distribution of wealth, menaçant les fondements mêmes de la société américaine. Plutôt que de restreindre arbitrairement la part des profits ou le rendement du capital, solution que Fisher évoque pour mieux les rejeter, la méthode la plus adaptée lui semble être d'imposer lourdement les héritages les plus importants. Il mentionne une taxation égale aux deux tiers de la succession, voire à la totalité si l'héritage perdure depuis trois générations. Il est frappant de voir à quel point Fisher s'inquiète beaucoup plus des inégalités que le roi Beaulieu, alors même qu'il vit dans une société beaucoup moins inégale. La peur de ressembler à la vieille Europe explique sans doute en partie la progressivité fiscale américaine. Il faut également ajouter la violence extrême de la crise des années 1930 aux États-Unis, ce qui conduit très vite à la mise en accusation des élites économiques et financières, dont il apparaît de plus en plus clairement aux yeux de l'opinion qu'elles se sont enrichies tout en conduisant le pays au désastre. Rappelons que la part des hauts revenus dans le revenu national américain atteint des sommets à la fin des années 1920, notamment du fait de plus-values boursières mirobolantes. C'est dans ce contexte que Roosevelt arrive au pouvoir au début de l'année 1933, alors que la crise dure déjà depuis plus de 3 ans et qu'un quart du pays est au chômage. Il décide immédiatement de relever fortement le taux supérieur de l'impôt sur le revenu, qui avait été abaissé à 25% à la fin des années 1920 et sous la désastreuse présidence Hoover, et qui passe à 63% dès 1933, puis à 79% en 1937, dépassant ainsi le précédent record de 1919. En 1942, le Victory Tax Act fait passer le taux supérieur à 88%, niveau porté à 94% en 1944, avec les différents suppléments. Le taux supérieur se stabilise ensuite aux environs de 90% jusqu'au milieu des années 1960, puis de 70% jusqu'au début des années 1980. Au total, sur la période 1932-1980, c'est-à-dire pendant près d'un demi-siècle, le taux supérieur de l'impôt fédéral sur le revenu est en moyenne de 81% aux États-Unis. À cela, il faut ajouter l'impôt sur le revenu prélevé au niveau des États, dont le taux est généralement compris entre 5% et 10%. Il est important d'insister sur le fait qu'aucun pays d'Europe continentale n'a jamais pratiqué de tels taux, ou bien de façon tout à fait exceptionnelle pendant quelques années tout au plus, et en aucune façon pendant un demi-siècle. En particulier, la France et l'Allemagne appliquent des années 1940 aux années 1980 des taux supérieurs généralement compris entre 50% et 70%, mais qui ne montent jamais à 80-90%. La seule exception concerne l'Allemagne entre 1947 et 1949. Le taux supérieur est alors de 90%. Mais il s'agit précisément de la période où les barèmes sont fixés par les autorités alliées d'occupation, en pratique par les autorités américaines. Dès que l'Allemagne retrouve sa souveraineté fiscale, en 1950, le pays décide de revenir très vite vers des taux qui lui semblent plus conformes à sa sensibilité, et le taux supérieur redescend en quelques années à guère plus de 50%. Voir graphique 14.1. On observe exactement le même phénomène au Japon. Le tropisme anglo-saxon pour la progressivité apparaît également de façon plus extrême encore pour l'impôt progressif sur les successions. Alors que les États-Unis stabilisent leur taux supérieur entre 70% et 80% des années 1930 aux années 1980, la France, comme l'Allemagne, n'ont jamais dépassé 30-40%. Avec là encore comme seule exception les années 1946-1949 en Allemagne. Voir graphique 14.2. Le seul pays à atteindre les sommets américains, voire à les dépasser par moment pour les revenus comme pour les successions, est le Royaume-Uni. Le taux applicable aux revenus britanniques les plus élevés atteint 98% pendant les années 1940, puis de nouveau pendant les années 1970, ce qui est le record historique absolu à ce jour. Il faut aussi noter qu'une distinction souvent appliquée au cours de cette période dans les deux pays concerne la différence entre le revenu gagné, earn income, c'est-à-dire le revenu du travail, salaire ou revenu d'activité non salarié, et le revenu non gagné, unearned income, c'est-à-dire le revenu du capital, loyer, intérêt, dividende, etc. Le taux supérieur indiqué sur le graphique 14.1 pour les États-Unis et le Royaume-Uni concerne le revenu non gagné. Il arrive parfois que le taux supérieur applicable au revenu gagné soit légèrement inférieur, en particulier pendant les années 1970. Par exemple, quand le taux supérieur atteint 98% sur les revenus du capital au Royaume-Uni de 1974 à 1978, il est de 83% pour les revenus du travail. Cette distinction est intéressante car elle exprime en langue fiscale la graduation de la suspicion vis-à-vis des très hauts revenus. Tous les revenus trop élevés sont suspects, mais plus encore ceux qui n'ont pas été gagnés. Le contraste avec le contexte actuel, ou ce sont au contraire les revenus du capital qui bénéficient d'un régime plus favorable dans de nombreux pays, notamment européens, est saisissant. Il faut noter que le seuil d'application de ces taux supérieurs, variables au cours du temps, est toujours extrêmement élevé. Ramené au revenu moyen des années 2000-2010, il se situe le plus souvent entre 0,5 et 1 million d'euros. Dans le cadre de la hiérarchie actuelle, ces taux concerneraient donc moins de 1% de la population, généralement entre 0,1% et 0,5% de la population. Le fait de taxer davantage les revenus non gagnés est également cohérent avec l'utilisation simultanée d'un impôt successoral lourdement progressif. Si on le remet dans une perspective plus longue, le cas du Royaume-Uni est particulièrement intéressant. Il s'agit du pays où la concentration patrimoniale était la plus extrême au XIXe siècle et à la Belle Époque. Les chocs subis par les hauts patrimoines du fait des guerres du XXe siècle, destruction, expropriation, y ont été moins lourds que sur le continent. Mais le pays a choisi de leur faire subir un choc fiscal plus pacifique, mais néanmoins considérable, avec un taux supérieur atteignant ou dépassant les 70-80% pendant la période 1940-1980. Le Royaume-Uni est certainement le pays où la réflexion autour de la taxation de l'héritage et des données successorales est la plus intensive au cours du XXe siècle, notamment pendant l'entre-deux-guerres. En novembre 1938, dans la préface à la réédition de son livre classique de 1929 consacré à l'héritage, Josiah Wedgwood considère comme son compatriote Bertrand Russell que les plutodémocraties et leurs élites héréditaires ont failli face à la montée du fascisme. Sa conviction est que les démocraties politiques qui ne démocratisent pas leur système économique sont intrinsèquement instables. Il voit dans l'impôt lourdement progressif sur les successions l'outil central permettant une telle démocratisation pour le nouveau monde qu'il appelle de ses vœux. L'explosion des salaires des cadres dirigeants, le rôle de la fiscalité. Après avoir connu une grande passion pour l'égalité des années 1930 aux années 1970, les États-Unis et le Royaume-Uni sont repartis avec le même enthousiasme dans la direction opposée au cours des dernières décennies. En particulier, le taux supérieur de leur impôt sur le revenu, après avoir été pendant longtemps nettement au-dessus des niveaux appliqués en France et en Allemagne, est passé nettement au-dessous depuis les années 1980. Pour simplifier, les taux allemands et français sont restés stables autour de 50-60% au cours de la période 1930-2010, avec une légère baisse en fin de période, alors que les taux américains et britanniques sont passés de 80-90% dans les années 1930-1980 à 30-40% dans les années 1980-2010, avec un point bas à 28% à la suite de la grande réforme fiscale reaganienne de 1986. Les pays anglo-saxons ont joué au yo-yo avec leurs riches depuis les années 1930. En comparaison, les pays d'Europe continentale, dont l'Allemagne et la France sont des exemples relativement représentatifs, et le Japon ont été somme toute beaucoup plus stables dans leur attitude à l'égard des hauts revenus. Nous avons déjà noté dans la première partie de ce livre que ce grand retournement pouvait s'expliquer au moins en partie par le sentiment de rattrapage qui saisit les États-Unis et le Royaume-Uni dans les années 1970 et dont se nourrit la vague Thatcherio-Reaganienne. Certes, ce rattrapage de la période 1950-1980 est pour l'essentiel la conséquence mécanique des chocs subis par l'Europe continentale et le Japon au cours de la période 1914-1945. Mais il n'en est pas moins très mal accepté. La hiérarchie de la fortune met en jeu l'honneur et la morale et n'est pas seulement une question d'argent au niveau des pays comme des individus. La question qui nous intéresse maintenant est de comprendre les conséquences de ce grand retournement. Si l'on examine l'ensemble des pays développés, on constate que l'ampleur de la baisse du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu observé depuis les années 1970 jusqu'aux années 2000-2010 est très étroitement reliée à l'ampleur de la hausse de la part du centile supérieur dans le revenu national au cours de la même période. Concrètement, il existe une corrélation presque parfaite entre ces deux phénomènes. Les pays qui ont le plus fortement baissé leur taux supérieur sont aussi ceux où les plus hauts revenus, et notamment les rémunérations des cadres dirigeants des grandes entreprises, ont le plus fortement augmenté. Et inversement, les pays qui ont peu baissé leurs taux supérieurs ont vu les hauts revenus progresser beaucoup plus modérément. Cela vaut non seulement pour les États-Unis et le Royaume-Uni dans le premier groupe, l'Allemagne, la France et le Japon dans le second, mais également pour l'ensemble de 18 pays de l'OCDE pour lesquels les séries de la WTIT permettent d'étudier cette question. Si l'on en croit les modèles économiques classiques fondés sur la théorie de la productivité marginale et de l'offre de travail, l'explication pourrait être que la baisse du taux supérieur a puissamment stimulé l'offre de travail et la productivité des cadres dirigeants dans les pays concernés, et que leur productivité marginale, et donc leur salaire, serait ainsi devenue beaucoup plus élevée que dans les autres pays. Cette explication n'est cependant pas très plausible. Comme nous l'avons noté dans la deuxième partie, chapitre 9, la théorie de productivité marginale est un modèle qui rencontre des difficultés conceptuelles et empiriques sérieuses, et aussi qui pêche quelque peu par naïveté, quand il s'agit d'expliquer la formation des rémunérations au sommet de la hiérarchie salariale. Une explication plus réaliste est que la baisse du taux supérieur, particulièrement massive aux États-Unis et au Royaume-Uni, a totalement transformé les modes de formation et de négociation des salaires de dirigeants. Pour un dirigeant, il est toujours difficile de convaincre les différentes parties prenantes d'une entreprise, subordonnés directs, autres salariés situés plus bas dans la hiérarchie, actionnaires, membres du comité de rémunération, qu'une augmentation importante de rémunération, par exemple $1 million en plus, est véritablement justifiée. Dans les années 1950-1960, un cadre dirigeant américain ou britannique avait peu intérêt à se battre pour obtenir une telle augmentation, et les différentes parties prenantes étaient moins prêtes à l'accepter, car de toute façon, 80-90% de l'augmentation allait directement dans les caisses du Trésor public. À partir des années 1980, le jeu a totalement changé de nature, et tout semble indiquer que les dirigeants se sont mis à déployer des efforts considérables pour convaincre les uns et les autres de leur accorder des augmentations non moins considérables, ce qui n'est toujours pas si difficile compte tenu des très grandes difficultés objectives liées à la mesure de la contribution individuelle d'un dirigeant d'entreprise à la production de sa société et des modes de composition souvent assez incestueux qui règnent dans les comités de rémunération. Cette explication a en outre le mérite d'être cohérente avec le fait qu'il n'existe aucune relation statistiquement significative entre la baisse du taux marginal supérieur et le taux de croissance de la productivité des différents pays développés depuis les années 1970. Concrètement, le fait central est que le taux de croissance du PIB par habitant a été presque exactement le même dans tous les pays riches depuis les années 1970-1980. Contrairement à ce que l'on s'imagine parfois outre-Manche ou outre-Atlantique, la vérité des chiffres, autant bien sûr que les comptes nationaux officiels permettent de l'approcher, est que la croissance n'a pas été plus forte depuis les années 1970-1980 au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'en Allemagne, en France, au Japon, au Danemark ou en Suède. Autrement dit, la baisse du taux marginal supérieur et la montée des hauts revenus ne semblent pas avoir stimulé la productivité, contrairement aux prédictions de la théorie de l'offre, ou tout du moins pas suffisamment pour que ce soit statistiquement décelable au niveau de l'économie dans son ensemble. La confusion considérable qui existe parfois autour de ces questions provient du fait que l'on effectue souvent des comparaisons sur quelques années seulement, ce qui permet de conclure tout et son contraire, ou bien que l'on oublie de retirer la croissance de la population, qui explique l'essentiel de l'écart structurel de croissance totale entre les États-Unis et l'Europe. Peut-être aussi confond-on parfois la comparaison du niveau de production par habitant, qui a toujours été de l'ordre de 20% plus élevé aux États-Unis dans les années 1970-1980 comme dans les années 2000-2010, et celle des taux de croissance qui ont été sensiblement les mêmes sur les deux continents au cours des trois dernières décennies. Mais la source principale de confusion provient très probablement du phénomène de rattrapage déjà évoqué. Il est incontestable que le déclin britannique et américain s'est arrêté dans les années 1970-1980, dans le sens où les taux de croissance observés outre-Atlantique et outre-Manche ont cessé d'être inférieurs aux taux allemands, français, nordiques, japonais. Mais il est tout aussi incontestable que cet écart a été réduit à zéro, pour une raison toute simple, le rattrapage des pays européens et du Japon sur les pays anglo-saxons était terminé, qui n'a de toute évidence pas grand-chose à voir avec la révolution conservatrice américano-britannique des années 1980, au moins en première approximation.